Ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, il ne faut pas parler de plan de carrière, mais il faut bien avoir en tête un projet professionnel. Parce que ce projet professionnel que vous avez, qui est à moyen terme, c'est ce qui va faire la différence. Effectivement, c'est exactement ça. Il faut que vous vous projetez un peu plus loin que le poste qui vous est proposé. Et ensuite, tout ça, ça se travaille. Il y a beaucoup de travail derrière, un travail de connaissance personnelle, parce qu'il faut arriver à bien se connaître pour arriver à bien se vendre, et puis un travail de connaissance de l'entreprise et de son secteur d'activité. Donc tout ça, effectivement, ça se travaille. On a des outils pour apprendre à le travailler, et un entretien, il va peut-être durer 1 heure, mais derrière, vous aurez énormément de travail au préalable. De toute manière, le travail que vous aurez fait déjà pour répondre à l'annonce, parce que quand vous allez répondre à l'annonce, vous allez vous renseigner sur l'entreprise, essayer de trouver la problématique de l'entreprise, essayer de répondre déjà dans la lettre de motivation à la problématique de l'entreprise. Et une fois que vous aurez été sélectionné, il faudra aller encore plus loin pour arriver à répondre à cette attente et à montrer non seulement que vous avez bien compris la mission qui vous était proposée dans le poste, mais que vous avez bien compris ce qu'il y avait au-delà de cette mission. Et c'est ça qui pourra faire la différence. Voilà. Mais ça se travaille, hein, puisqu'on va vous demander effectivement certaines qualités. Vous ne les aurez peut-être pas toutes, mais il faudra arriver à en mettre en avant celles que vous avez. Et pas essayer de cacher désespérément quelque chose, parce que si on sent en face que vous cachez quelque chose, vous n'allez pas être congruent. Donc forcément, la personne qui est en face va sentir un petit retrait. Et ça, c'est pas bon. Voilà. Donc il faut avoir conscience de l'écart qu'il y a entre votre candidature et le poste. Parce que de toute manière, c'est vrai qu'une entreprise va demander le candidat idéal. Il est peu probable qu'elle le trouve. Mais elle va aller vers le candidat qui s'en rapproche le plus et avec lequel elle est le plus à l'aise. Alors, pour revenir sur le recrutement des grandes et des petites entreprises, dans une petite entreprise, très souvent, c'est la personne avec laquelle vous allez travailler qui va vous recruter. C'est tout simple. Il faut que la personne qui est en face de vous trouve les compétences, bien entendu, mais ait envie de travailler avec vous. Donc, donnez à la personne qui est en face de vous l'envie de travailler avec vous. Il faut qu'elle puisse se dire, ben voilà, moi ça va être quelqu'un qui va être dans mon équipe. Quand je vais partir, je veux pouvoir compter sur lui. Je veux pouvoir partir l'esprit tranquille, sachant que cette personne est à sa place, à son autonomie, peut me remplacer entre guillemets. Donc il faut vraiment que vous lui fassiez confiance, que vous le rassuriez par rapport à ça. La mise en confiance est quelque chose de très très important et ça se travaille par la confiance que vous aurez acquise en vous et par la connaissance que vous aurez faite de l'entreprise.
Là, vous parlez essentiellement, je disais, d'entretien d'embauche dans des moyennes, des grandes entreprises, des petites entreprises éventuellement. Mais qu'est-ce qu'il en est pour les recrutements de maîtres de conf, voilà. Voilà, essentiellement académiques. Parce que pour ma part, en tout cas, j'aimerais bien envisager une suite dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qu'il en est?
Même chose dans les laboratoires pour connaître un certain nombre d'amis qui ont été recrutés ici, et même au CNRS, au CIRAD, au CEMAGREF, etc. Il va y avoir, je ne parle pas des parachutages réussis, hein, ça existe, hein, mais bien sûr qu'il va y avoir un recrutement, et là aussi, on ne va pas vouloir faire entrer n'importe qui dans le labo donné. Hein. Donc, ce ne sont pas des professionnels des ressources humaines, pour certains. Quoique parfois on fait intervenir quand même les RH dans le coup, mais ils vont avoir les mêmes exigences et de plus en plus. De plus en plus. La concurrence est rude, hein, bien sûr. On a le choix, donc on va chercher le mouton à cinq pattes, on ne va pas le trouver, effectivement. On va parier sur le potentiel de la personne. Elle ne l'a pas, est-ce qu'elle est capable de l'avoir? Okay. Elle n'est pas comme je veux aujourd'hui, mais est-ce que je sens chez elle, chez cette personne, la possibilité d'atteindre? Voilà. On parie là-dessus.
Je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport au recrutement dans la fonction publique. Ils vont aussi se baser sur vos publications. Ce que ne va pas faire une entreprise, là, au niveau des organismes, oui, ils vont regarder ce que vous avez fait en termes de recherche pendant que vous étiez en thèse. Donc, publier pendant la thèse, c'est très important. Et le niveau de publication, c'est-à-dire vous êtes premier auteur ou deuxième auteur ou troisième auteur, ça, c'est important. Donc, pendant la thèse, battez-vous pour être le plus haut possible, premier auteur, deuxième auteur. C'est important, pensez-y, parce qu'effectivement, pour la fonction publique, ça va jouer.
Le plus que j'ai vu, que nous avons vu, je ne sais pas si Jean-Pierre s'en souvient, c'était Coca-Cola, l'usine là qu'ils ont dans le sud-est de la France, 7 entretiens pour un poste, pour le poste. Et ça s'est terminé en visioconférence je ne sais pas si vous en souvenez, Jean-Pierre, entre la Hollande, le candidat, etc. Donc, c'est 7 rencontres. D'accord ? Ça, c'était le plus long entretien qui s'est déroulé sur plusieurs mois. C'est ça aussi. La notion de temps est importante à vos niveaux de recrutement. D'accord ? Donc, la moyenne, si je peux lancer quelque chose, c'est 2-3 rencontres. Hein ? On ne recrute pas un docteur dans le privé en 45 minutes. OK ? Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir le labo qui va vouloir vous voir, les personnes du labo, les ressources humaines, etc. Il y a plusieurs protagonistes qui vont. Hein, donc, c'est long. Et dans un recrutement, ça on l'a vu, le pire que craignaient nos docteurs, hein, que nous accompagnons là pendant des années, c'était le recrutement sur une journée, avec entre-temps la pause repas. D'accord ? Sympa la pause repas, où on vous dit « Allez, on va manger ensemble, hein ?» Et puis là, on a l'impression qu'on va se relâcher. Attention à ça. L'entretien continue entre midi et deux. Hein ? Et comment il continue ? Alors, ça va être hyper décontracté parce qu'on va vous parler, on va vous faire parler de votre région. Mais là, qu'est-ce qu'on entend ? On va vous tester sur votre culture générale, l'intérêt à échanger avec vous. Donc, l'entretien, on n'est plus du tout sur une problématique de labo, de recherche et autres. Mais là, on est vraiment sur, voilà, je mange en face de lui ou d'elle. Est-ce qu'il a des choses à raconter ? Est-ce qu'il s'exprime bien ? Est-ce que, voilà, si je peux l'imaginer dans une réunion avec moi, avec des clients, est-ce que ben, il serait à sa place, quoi ? Hein ? Donc vraiment, ils le craignaient tous, ça. Hein ? Je peux vous dire que la plupart du temps, ils ne mangeaient pas. Hein ? Hein ? Certains me disaient la salade verte et les spaghettis, on n'en prenait pas. Vous imaginez un peu. Et puis c'est le stress, parce que ça passe par une petite visite du labo. Voilà, donc vous aurez ça aussi, hein. Attendez-vous à ça, donc un entretien 45 minutes, ça n'existe pas à vos niveaux, hein, vraiment. Et il faut systématiquement, quelle que soit la personne qui sera en face de vous, ressortir les arguments et convaincre, et séduire, parce que c'est quand même un bel acte de séduction, hein, un entretien, quand même.
La difficulté pour vous, je voulais m'adresser, mais elle n'est pas là ce matin, à une jeune femme qui dit clairement, j'espère qu'après ce petit déjeuner, j'appréhenderai moins les entretiens. Je voulais lui demander pourquoi elle appréhende effectivement l'entretien. Et c'était mon point de départ. N'y allez pas. Je sais bien que c'est difficile, mais connaissez-vous vous-même ? J'ai une formule dans un bouquin, autrement ça ne s'expliquerait pas sous cette forme. Je dis un entretien de recrutement, ça se prépare le matin à jeun devant le miroir de sa salle de bain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, soyez conscient, connaissez-vous, point fort, point faible, sans être influencé par copain, copine, petit ami, parent, prof. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? Qu'est-ce que je sais faire ? Pourquoi j'aimerais le faire ? Pourquoi je n'aimerais pas ce type d'activité ? Si vous êtes lucide avec vous-même, et si par ailleurs vous êtes informé sur l'interlocuteur, ben vous serez bon. Et vous ne serez pas stressé. Mais si vous êtes stressé, ben on se dira, effectivement, ce garçon, cette fille, elle est, bon, si je suis gentil, trop émotive. Si je suis méchant, elle est invivable en société. Donc, de toute façon, la réponse sera non. Alors, essayez d'être vous-même. Mais pour être vous-même, en étant relativement décontracté dans un entretien, ben, il faut faire le point au départ, en disant qu'est-ce que je peux mettre en avant. Avec certitude, j'ai des doutes, mais je vais dire j'ai des doutes, je ne suis pas sûr d'eux, ça passera. Si vous essayez effectivement de noyer le poisson ou de camoufler une faiblesse, ça ne passera pas. Si vous dites effectivement ça, ce n'est pas mon point fort, mais j'ai prouvé dans d'autres domaines que je pouvais apprendre vite, donc là aussi je suis sûr que j'apprendrai vite, ça passe. Mais soyez lucide. Hein, le matin à jeun devant le miroir de ma salle de bain, hein, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je peux apporter. Là vous serez bon, vous ne serez pas stressé. Et effectivement le stress découle peut-être de cette appréhension que vous avez de l'entretien, et encore une fois dites-vous, la personne qui est en face de moi, elle a peur aussi de se tromper, elle n'a pas la science infuse, donc je vais discuter avec elle, je vais négocier avec elle. Et si vous avez ça présent à l'esprit, vous dédramatisez l'interlocuteur, qui n'est pas un adversaire, mais un partenaire. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas cette situation de stress. C'est pas facile, Et c'est d'autant moins facile que vous avez pour beaucoup, pour la majorité d'entre eux, des formations scientifiques et pour tous des formations de haut niveau. C'est un gap important à faire. Parce que c'est pas seulement, on revient là-dessus, c'est pas je recrute pas un CV. Je recrute une personnalité qui doit être bien dans sa peau, qui doit se connaître, qui doit s'assumer.
Alors, moi, je voulais savoir, est-ce que vous pensez, parce que j'imagine que si on est stressé avant d'aller à un entretien d'embauche, c'est aussi parce qu'il y a une part d'inconnu, dans le sens où, au-delà de ce qu'on peut trouver sur Internet, les renseignements sur l'entreprise, etc., et la fiche de poste, en réalité, ce dont vous nous parliez tout à l'heure, ce qui va se passer dans le long terme, réellement, on ne le sait pas. Et il est difficile, on n'a pas réellement les moyens de le savoir. Alors moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que c'est bien vu ou est-ce que c'est mal vu, ou est-ce que c'est risqué peut-être de prendre contact directement avec le recruteur, ou en tout cas la personne qui pourrait nous donner l'entretien, pour avoir un petit peu plus de renseignements sur le poste et justement ce qui peut se passer derrière ce poste et la façon dont ça va se passer à long terme. Alors, justement pour avoir les renseignements dont vous nous parliez tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que c'est bien vu, ou est-ce que c'est mal vu, ou est-ce que c'est risqué ?
Quand j'étais aux affaires, j'avais des... je vais redire un mot quand même sur la procédure pour illustrer ce que disait Naïma. Mais j'avais des grilles qui me servaient un peu de fil conducteur dans un entretien. Et une des choses qui compte, c'est effectivement les questions posées par le candidat. Alors si ces questions me prouvent qu'il ne s'est pas renseigné préalablement, c'est pas bon. Pour répondre à votre question, si en revanche il m'interroge sur des choses qu'il ne pouvait pas savoir, c'est excellent. J'attends effectivement ces questions, parce que c'est une marque évidente de motivation. Qu'est-ce qui peut se passer après? Quelles sont les possibilités d'évolution? Il y a des choses que vous pouvez savoir en ce domaine. Vous pouvez le savoir en regardant, par exemple, l'origine des cadres dirigeants ou des cadres de haut niveau de l'entreprise. Est-ce qu'ils viennent de l'entreprise ou est-ce qu'ils viennent de l'extérieur? Ça vous donnera effectivement des tas de possibilités. En entrant le nom sur Internet, vous le saurez. Vous saurez effectivement quelle a été la carrière de l'intéressé. Si vous voyez que, je sais pas, le patron, le directeur de la recherche ou le directeur du marketing est un homme du sérail et qu'il a fait toute sa carrière dans l'entreprise, ça vous donne une indication sur les possibilités d'évolution. Si vous voyez qu'en revanche, il a été parachuté d'une entreprise à l'autre et qu'il est là depuis un an, ça veut dire que la promotion interne est moins assurée dans cette entreprise. Donc vous avez des moyens, effectivement, de vous informer. Alors, si vous n'avez pas fait ça, je vous le reprocherai. Mais si vous avez fait ça et si vous ne trouvez pas l'information, et si, quand vous êtes en face de moi, vous dites « je voudrais vous poser une question sûre », bienvenue, parce qu'encore une fois, c'est un dialogue.
Effectivement, nous, on le conseillait, ça, mais ça ne marchait pas systématiquement. Hein. D'abord, parce qu'il faut avoir le service RH au téléphone. Il y a des grosses boîtes comme Sanofi et autres. Il faut se lever très tôt et encore, hein, ça ne marche pas. Hein. Donc, il faut le tenter. Hein. Il faut le tenter. Vous pouvez effectivement dire, voilà, je suis sur le point de candidater. J'aimerais avoir quelques éclaircissements sur tel ou tel point. Elle peut ne pas répondre ou pas. D'accord, ça, c'est une chose. Par contre, lui demander... ce qu'il compte faire dans un an, deux ans ou trois, ça se trouve, elle ne le sait même pas. Les entreprises, elles savent que ça va changer, mais comment et quand, certaines ne le savent pas aujourd'hui. Donc ça sera très difficile à demander. D'accord ? Quelles vont être les perspectives pour la personne qui va être recrutée ? Je ne suis pas certaine que la personne RH vous renseignera. D'accord. Par contre, lui demander si y a la grandeur, la grosseur du labo, des trucs comme ça, des trucs un peu plus basiques, ça, oui, elle peut éventuellement. Hein.
Et puis, n'oubliez pas les réseaux, quand même. Via Léo, LinkedIn, etc., ça peut vous permettre de rencontrer ou de prendre contact avec des personnes qui ont travaillé ou qui travaillent dans l'entreprise et d'avoir des informations sur la boîte de l'intérieur. Pas forcément avec la personne qui va vous recruter, ni avec les personnes avec lesquelles vous allez travailler, mais avoir un contact dans l'entreprise pour un peu palper la tendance et l'atmosphère, etc., c'est toujours intéressant.
Attention au réseau, attention. Il y a Facebook, hein, pour ne parler que de celui-ci, on vient de parler de Viadeo, qui est un réseau professionnel, et effectivement, vous avez tout intérêt à vous inscrire et à laisser votre CV une fois qu'il aura été validé. C'est-à-dire très bon. Petit clin d'œil à vous tous. Mais je pense à Facebook, effectivement, il y a 1 an et demi, 2 ans, Facebook, ils y allaient un peu, hein, les recruteurs. Au fait, même à l'université, hein, même les postes académiques, hein, j'ai eu confirmation de ça. Voilà, on allait un peu voir, d'accord ? Il y a quelques mois, ils y allaient un peu plus. Là, ils y vont systématiquement. C'est du pré-recrutement, d'accord ? C'est de l'info. Alors, si vous n'avez pas verrouillé vos photos de bringues, d'amis, de vacances, de machin, vos contacts, ben, on vous invite vivement à tout verrouiller, d'accord ? Puisque on va chercher ce qu'ils font. Ils reçoivent des CV, il y a le CV ici, puis clic, on va sur Google, clac, on voit si la personne est sur Facebook, sur même sur quel réseau elle est. Ça nous renseigne, d'accord ? Et à l'université, au CNRS, ils le font aussi. Sur des postes à l'UM2 et dans une autre université, j'ai eu confirmation qu'on glanait des infos comme ça aussi. On en sait un peu plus. Donc verrouiller, verrouiller. Hein, c'est important. Merci, hein, parce qu'on aurait pu ne pas y penser.
LinkedIn aussi est très important, hein, parce qu'aujourd'hui, les recruteurs passaient beaucoup par Viadeo, mais Viadeo devient très vite payant. Si vous y allez, vous allez vous en rendre compte. Voilà, alors que LinkedIn est encore gratuit en allant beaucoup plus loin. Et les chasseurs de tête les utilisent beaucoup, les recruteurs les utilisent de plus en plus. Hein. Je vois que sur le portefeuille de personnes que je suis, on en a de plus en plus qui sont contactés par ce biais-là. Donc il faut avoir son profil sur ces deux sites, mais il faut aussi l'animer, c'est-à-dire y aller assez souvent, faire partie de groupes de discussion, etc., sur le thème qui vous intéresse, parce que c'est vraiment un lieu important pour se faire connaître. Voilà, c'est pas seulement le déposer, mais l'animer. Votre espace sur ces sites. C'est très, très important. Et effectivement, les recruteurs, quels qu'ils soient, iront dessus après ou avant vous avoir reçu. Ça, c'est clair.